Salutations Alain Baraton.
Salutations Eric Delvaux, salutations à tous.
Certaines citations sont magnifiques et méritent donc leur pesant de cacahuètes.
Comme, je cite, les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints, il s'est signé Jean-Pierre Raffarin, ou encore je ne fais pas de promesses, mais je les tiens, une phrase attribuée à Édouard Balladur. Alors, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres qui valent, vous avez raison, leur pesant de cacahuètes.
Alors, au fait, ça vient d'où cette expression pesant de cacahuètes?
Avant de parler du pesant, un mot sur l'arachide, aussi appelé cacahuète ou cacahuète.
Oui, moi je dis plutôt huette, vous dites ouette.
Oui, j'ai vérifié dans le dictionnaire, donc les deux orthographes se disent, il n'y a donc pas de souci. Alors, cette plante produit des fleurs le plus souvent jaunes, et lorsque celle-ci fane, une sorte de tige se développe sous le verre fécondé et s'enfonce dans le sol de quelques centimètres. L'arachide a donc la particularité de fructifier sous la terre. Sachez aussi, Eric, que cette plante est originaire du continent américain et elle produit sous terre, donc les gousses qui contiennent les fameuses cacahuètes. L'intérêt de ces graines est qu'elles se conservent longtemps et sont nourrissantes. Les marins, pour toutes ces raisons, apprécient leur qualité. Dès le XVIe siècle, elles sont chargées à bord des navires en partance pour l'Afrique, ces mêmes navires qui reviendront avec, dans leur soute, les malheureux esclaves. Ce commerce odieux a donc favorisé leur implantation partout sur la planète et les deux pays aujourd'hui les plus gros producteurs sont la Chine et l'Inde. En Afrique, ce sont les Français qui les premiers cultiveront les cacahuètes. C'était en 1840.
Alors voilà pour les cacahuètes. Maintenant pour le mot pesant, ça vient d'où?
Les origines sont troubles, mais la plus probable nous est indiquée par Michelet, qui prétend qu'autrefois, pour s'acquitter d'un crime, on versait à la famille de la victime son poing en or. Pierre-Marie Quittard, dans son dictionnaire étymologique et historique paru en 1842, indique que le pèse est le résultat d'une collecte faite entre voleurs libres au profit d'un voleur prisonnier. Le montant de la collecte est le pesant.
Oui, ce terme d'ailleurs peut être aussi péjoratif.
Oui, dire d'une personne qu'elle vaut son pesant de plomb signifie qu'elle n'a pas grand-chose dans la tête. Quant à notre pesant de cacahuètes, vous vous doutez que cela signifie ne pas valoir grand-chose.
Voilà pour ce pesant de cacahuètes. Maintenant, vos réponses et vos conseils aux auditeurs de France Inter. Gilles d'ailleurs vous demande, est-il facile de cultiver la cacahuète?
Oui, le plus dur est de trouver une graine qui ne soit pas cuite ou grillée bien évidemment, mais c'est très facile. Vous prenez des cacahuètes, vous les mettez sous terre dans un petit pot rempli de terreau, vous les enfoncez de 2 à 3 cm à peine, vous les arrosez vraiment beaucoup et vous les installez près d'une source de chaleur. La cacahuète est fragile, elle est délicate, elle a besoin au minimum pour apparaître 22-23 degrés, c'est vraiment la température idéale.
Mais c'est facile à faire.
Oui, parce qu'au bout de 10 ou 15 jours, il y a ce qu'on appelle la plantule, la petite plante apparaît et là, changement de programme, plein soleil, mais vraiment plein pot. Et ensuite, vous pouvez transplanter le végétal. Attention, la transplantation est délicate. Je vous recommande donc, Eric, si demain vous avez l'intention de pratiquer
l'art de la cacahuète,
prenez plutôt des pots qui se décomposent dans la terre. Ça vous évitera de faire prendre le risque. Attention également, bien entendu, si vous avez un jardin au nord de la Loire, ne vous attendez pas à des récoltes abondantes.
Miracles. Ça semble aussi facile que les graines de Pif Gadget à l'époque.
Et rappelez-vous, il y avait le haricot sauteur.
Oui, et absolument. Le pois sauteur.
Et les pifs. Et les pifises.
Bon, on en parlera un peu plus tard. On prendra un café, on en parlera. On est à l'antenne, là, quand même. Sandrine vous demande, je viens d'enlever un fil de fer qui étranglait le tronc d'un arbre. Que faire maintenant pour soigner cet arbre?
C'est trop tard. L'arbre a continué de se développer. Il a été comme étranglé. En retirant le fil de fer, en espérant qu'il n'ait pas été absorbé par le végétal, eh bien, on verra une trace. L'arbre va mettre beaucoup de temps avant de se remettre. L'occasion de rappeler qu'il faut toujours vérifier le collier des tuteurs. Ne pas attendre que le végétal soit étranglé avant soit de le retirer, soit de le desserrer. Ne jamais apposer sur un tronc d'arbre un panneau, une inscription, un clou ou quoi que ce soit. Parce que cette blessure occasionne de graves dégâts. Alors c'est drôle parfois de voir des arbres qui vont carrément engloutir de la signalétique, mais la plante en souffre beaucoup. Un arbre n'est pas un support.
Henriette a une question à propos du paillage en écorce de pin. Est-ce que c'est bon pour le potager?
Il faut y aller doucement. Je trouve que ce paillage est devenu un petit peu abusif, déjà parce qu'on ne voit plus la terre, et moi je suis de ceux qui aiment bien voir la terre. Je trouve que la terre est belle. Ensuite, quand vous mettez une couche d'écorce au-dessus du sol, j'ai le sentiment que vous perturbez quand même la vie qui existe en surface de terre. Et puis, cette écorce de pin, en se dégradant, va transformer la composition du sol. Donc ce que je recommande effectivement, c'est de mettre des écorces de pin ou de chêne, mais ne pas attendre qu'elles se décomposent avant de les retirer et de les remplacer par une écorce neuve. J'en profite également pour rappeler qu'un potager avec un beau paillage, c'est très beau, mais que les mulots et autres bestioles sont ravis aussi. Ils peuvent se promener d'une manière très discrète et aller ainsi d'un légume à un autre.
Question sur une expression à présent, question de François. Que signifie habiller un arbre ?
Quand on parle de l'habillage, généralement, on parle de la taille des racines. On parle également de rafraîchir. C'est simplement l'opération qui consiste à couper les branches de manière à ce que la coupe soit parfaitement net et puisse ainsi, comment dire, éviter la pénétration dans le bois des virus, bactéries et autres champignons.
Eric a une question. Comment éviter la maladie du cul noir ?
Ah, c'est une maladie qui va apparaître bientôt. C'est une maladie qui est cryptogamique, qui va endommager les tomates. Vous avez la tomate avec d'un côté le pédoncule, c'est la petite tige qui rattache le fruit au végétal. Eh bien, à l'opposé du pédoncule, il y a une tache noire, dite la maladie du cul noir. C'est tout simplement le stress hydrique. Le stress hydrique, c'est quand on arrose des tomates le lundi, on part en vacances pendant 15 jours, on arrose copieusement quand on revient. En un mot, que la plante n'est pas arrosée de manière régulière, elle stresse et elle développe cette maladie.
Le stress hydrique, rien à voir quand on boit trop. Hein. Ça n'a rien à voir avec
tout à fait.
Un conseil du week-end.
Et oui, j'ai pensé, nous avons un garçon ce matin dans le studio.
Un
jeune garçon qui est entre 8 et 12 ans, j'ai pensé à lui. Cet ouvrage s'appelle « Mon copain tahitien ». C'est Baptiste qui doit quitter Paris pour aller vivre en province. Il est un petit peu paumé, il va rencontrer d'autres amis. C'est une histoire qui est très joliment écrite. Avantage également, ce texte permet aux enfants dyslexiques de bien le suivre. Donc c'est dans la collection Dyslexie, Mon copain tahitien, édition La Plume de l'Argilette, et il est signé Valérie Delator.
La science d'Alain Baraton. Merci Alain, au week-end prochain.
À samedi.